Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast.
En tout cas, merci à vous pour votre accueil. Je suis très honoré d'être là aujourd'hui. Il y a à peu près une heure, et c'est pas à toutes les conférences que ça m'arrive, une heure avant la conférence, j'avais les larmes aux yeux, non pas de tristesse, mais d'inspiration. C'est une thématique qui est très importante pour moi, l'éducation. Est-ce que juste par curiosité, qui a jamais vu une de mes vidéos, qui n'a jamais vu de vidéo? Ok. Qui a déjà vu une vidéo, du coup? Ok. Alors du coup, pour les personnes qui ne connaissent pas, et c'est ce qui m'amène aujourd'hui ici, donc... À mes 15 ans, j'avais des pensées de suicide et je pensais régulièrement me suicider. J'étais mal dans ma peau, j'avais du mal à aborder les personnes autour de moi. J'étais pas à l'aise avec avec mes parents, avec les gens dans ma scolarité. Et à mes 15 ans, je suis tombé sur une vidéo de Martin Luther King, vous devez tous la connaître. Cette vidéo, Have a Dream, elle m'a mis les larmes aux yeux. Et ce jour-là, je me suis fait la promesse de... Soit je mets fin à ma vie aujourd'hui, soit je décide de vivre une vie extraordinaire et je vais au bout et on verra bien ce qui se passe. Et ça va faire 13 ans que je me suis fait cette promesse de ne pas me suicider et de donner une chance à ma vie et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que certaines personnes semblent heureuses et d'autres non, qu'est-ce qui fait que certaines personnes échouent et d'autres non, qu'est-ce qui fait que certaines personnes réalisent leurs rêves et d'autres non, et surtout ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait que deux personnes dans la même situation, l'une savoure sa vie. J'ai un taxi qui m'a dit il y a quelques jours l'expression « siroter la vie ». Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont siroter la vie alors qu'ils vont avoir un handicap et d'autres avec le même handicap vont pas siroter la vie? Qu'est-ce qui fait que deux personnes du même âge, du même sexe, de la même couleur de peau, une va siroter la vie et l'autre non? Cette question m'obsède, c'est une obsession d'essayer de comprendre et c'est ce qui m'a amené à faire des interviews. Il y a 5 points sur lesquels j'aimerais revenir aujourd'hui, 5 points qui s'appliquent à nous en tant qu'adultes et aussi à la communication qu'on peut avoir avec nos enfants. C'est la première fois que j'accepte une conférence sur la thématique de l'éducation parce que souvent je dis pourquoi je vais parler d'éducation alors que je n'ai pas d'enfants. Même si ça va faire 6 ans que je démarre sur mes conférences en disant que mes enfants ont changé ma vie. Alors souvent les gens me regardent, surtout quand j'avais 20 ans, ils étaient étonnés. En fait, je leur disais que mes enfants ont changé ma vie parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait dans ma vie alors que j'avais peur et que je n'osais pas, en me disant quel père j'ai envie de devenir pour mes enfants. Et aujourd'hui, j'accepte cette intervention parce que j'accompagne beaucoup de parents et je vois combien la relation avec leurs enfants peut soit les inspirer, soit les limiter dans le fait de réaliser leurs rêves. Et c'est fascinant pour moi de voir comment des fois des petits détails de communication peuvent changer la relation avec un enfant, par exemple si la personne est professeur ou si elle est parent. Donc 5 points aujourd'hui qui peuvent nous aider tous ici à vivre une vie inspirante. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça va à 10 personnes, on dirait. Est-ce que ça vous va? Alors il y a un premier point dont je voudrais parler. Il y a une dame, je voudrais être sûr de ne pas écorcher son nom, qui s'appelle Marilyn Wilhelm. Alors... Wilhelm, elle habite à Houston et cette femme m'a beaucoup inspiré quand j'ai entendu parler d'elle par ma chérie qui est passionnée d'éducation. Elle m'a mis les larmes aux yeux, cette femme, parce qu'elle commence tous ses cours en disant aux enfants qu'ils ont le droit d'être des génies et qu'ils sont des génies. Et plus que le fait de leur dire, cette femme a des résultats incroyables. Il y a plein d'enfants qui sont passés par son école qui ont réalisé des choses de dingue. Et j'ai un ami qui est conférencier, qui est intervenu dans son école. À la base, il était censé intervenir. Et les enfants entre 8 et 13 ans lui posaient des questions qui étaient tellement précises et tellement excellentes qu'il a décidé de s'asseoir et dire « Je veux comprendre comment vous éduquez vos enfants parce qu'ils sont trop intelligents, sont trop des génies. » Et c'est vraiment important pour moi cette idée parce que j'entends plein de personnes qui ont un potentiel qui est juste dingue. Je voyage à travers le monde, je rencontre des artistes, des peintres, des créateurs, des musiciens, des futurs entrepreneurs. Et je vois plein de personnes qui pourraient juste réaliser des choses de dingue, mais ils ont appris petit, je peux pas le faire, j'ai pas le droit d'exceller. Et pour moi, le fait de se dire aujourd'hui, déjà à nous en tant qu'adultes, mais aussi à nos enfants, j'ai le droit de vivre une vie extraordinaire, j'ai le droit d'être un génie, pour moi, c'est un point de départ qui est essentiel. Ça paraît être une phrase basique, mais c'est dingue le nombre de personnes que j'ai pu accompagner qui se sont mis à changer leur vie, faire un tour du monde, transformer leur handicap, créer des choses incroyables, parce qu'un jour ils se sont dit, peu importe les conditions de départ, je vais aller vivre une vie qui m'inspire, je vais aller vivre une vie extraordinaire. Et il y a quelque chose qui me touche énormément. J'ai créé une école de coaching et j'ai un jeune de, je ne sais plus exactement quel âge il a, entre 22 et 23 ans, il s'appelle Baptiste. Et à 18 ans, il a eu un accident de moto, perdu l'usage de ses jambes, perdu l'usage de 70% de son corps. Et la raison pour laquelle je vous parle de lui, c'est que ce jeune qui est aujourd'hui à 23 ans, et vous imaginez ce que c'est à 18 ans de perdre l'usage de 70% de son corps, une des raisons qui fait qu'il s'est relevé et qu'il avance, c'est qu'il s'est dit, ok, est-ce que je suis la seule personne à vivre un handicap? Non. Si je me relève, si j'avance avec ça, si je grandis avec ça, je vais pouvoir inspirer des gens, peut-être 10, peut-être 100, peut-être 10 000, peut-être 100 000 personnes, peut-être 1 million de personnes, avec un handicap ou sans handicap, à avancer, à se relever. Et c'est quelque chose qui est super important pour moi, qui est de me dire parfois je vais avoir des pertes de motivation, ou je vais avoir envie d'abandonner, de me dire, si je me relève et si j'avance, il y a peut-être une personne qui va avoir envie de se dépasser. Ce qui me donne envie de faire cette intervention, cette conférence aujourd'hui, c'est de me dire, juste une personne. S'il y en a une parmi tout le monde, juste une, qui ce soir, dans la semaine, prend la décision d'aller faire quelque chose dont il rêve, je me serais dit, ça vaut le coup de venir. Juste une personne qui ce soir, demain, après-demain, prend une décision, un truc, la petite voix qui nous murmure, va faire ce tour du monde. La petite voix qui nous murmure, va créer ton entreprise. La petite voix qui nous murmure, change la manière de t'habiller. Éduque tes enfants d'une autre manière. Apprends cette langue. Fais ce truc-là qui t'inspire. S'il y a au moins une personne, je me dirais, j'ai bien fait de le dire. Après, s'il y en a deux, je serai encore plus content. Mais sincèrement, dans toutes les conférences que j'ai pu faire, partout dans le monde, il y a toujours eu au moins une personne, et c'est ça qui me donne envie de me lever, c'est de me dire, il suffit d'une petite décision. Donc, toutes les choses que je vais dire, vous les avez déjà entendues des dizaines, centaines de fois. Et souvent, comme j'aime bien dire aux personnes, je m'en fous. La seule chose qui m'intéresse pour moi et pour les autres personnes, c'est est-ce que ta vie démontre que tu les utilises? Et je serais tellement heureux, qu'à la fin de cette conférence, vous preniez tous une décision. Ça peut être une petite décision ou une grande décision. Mais ce que je sais, c'est que tous ici, à commencer par moi, il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on a un petit peu peur. Il y a des choses qu'on ne change pas parce qu'on a un petit peu peur. Et je sais ce que c'est d'avoir peur. Je sais ce que c'est d'avoir peur, par exemple, d'aborder un animal étrange qui s'appelle une femme. J'ai mis des années à être à l'aise à aborder une femme. Ma chérie, d'ailleurs, m'a mis 3 râteaux avant de pouvoir être en couple avec elle. Elle m'a entraîné à la notion d'échec. Et heureusement que j'ai écouté cette petite voix à l'intérieur qui m'a dit « Continue, va lui parler, continue de lui parler. » Donc ça fait 6 ans qu'on est ensemble, on a envie d'avoir des enfants ensemble. J'aime ma femme, j'aime ma chérie. Et juste une petite décision d'aller faire un truc qui t'inspire, transforme ta vie. Donc si je fais cette conférence, j'insiste, c'est ni pour que ça soit drôle, ni pour que ça soit sympa, ni pour que ça soit agréable, mais juste qu'on prenne une décision à la fin de cette conférence d'aller changer un petit truc, un petit détail. Ça vous va? Il y a au moins 10 personnes? Il y a une deuxième notion qui est super importante. Donc à la base, je me suis intéressé au coaching, au développement personnel, à l'éducation, et j'ai essayé de répondre à une question qui est une question à 1 milliard de dollars, qui est comment tu motives quelqu'un? Et comment tu te motives toi-même? Alors j'ai fait toutes les formations que j'ai pu trouver aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, en Angleterre, en France, la thématique de comment tu fais pour motiver quelqu'un. Et j'ai jamais trouvé. Enfin, j'ai trouvé plein de choses, mais il n'y en a aucune qui a vraiment marché. Et vous savez que la question numéro 1 que me pose un parent, c'est comment je fais pour motiver mon enfant. Et surtout à partir de 12-13 ans, j'entends plus souvent la question. Entre 12 et 25 ans, j'entends encore plus souvent la question. Et souvent, j'ai des parents qui viennent me voir en disant « Mon fils a un gros problème de motivation. » Je dis mais qu'est-ce qu'il a ? Je dis « Mais il passe des heures devant l'écran d'ordinateur. Il pourrait avoir deux tremblements de terre. Je peux passer l'aspirateur entre l'ordinateur et lui, mais il s'adapte. » Et je lui dis « Mais il n'a pas de problème de motivation. » Et souvent que je questionne les parents, je leur dis « Mais tu me dis qu'il a un problème de motivation, mais par hasard, est-ce qu'il n'a pas un problème de motivation pour faire ce qui te motive toi plutôt que lui ?» Je lui dis « Tiens, par exemple, quand il va en boîte de nuit, draguer comme ça, il a un problème de motivation ? Est-ce qu'il a du mal à trouver de l'énergie ?» Il me dit « Non, c'est vrai. » Là, il est focus, concentré, déterminé, résilient, créatif, pendant 6 heures d'affilée, peu importe la fatigue. Et je dis, il n'a pas de problème de motivation, ton fils. Je dis, mais si, il a été étiqueté de... Attends, c'est comment la connerie que j'entends? J'entends souvent cette connerie. Un déficit d'attention, mon cul, voilà. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est super important pour moi, parce que...
C'est fini l'article 4?
Imaginez pas le nombre de personnes qui m'ont dit « David, il a un problème de motivation. » Ma mère disait que j'étais une loque. Vous imaginez une loque? Attends, ressemblait à une loque. Non, c'est vrai, je passais de longues heures derrière mon ordinateur. J'arrivais à communiquer avec mon ordinateur, pas avec le reste du monde. Et récemment, j'ai une dame qui vient me voir et elle me dit « J'ai mon ado qui a 13 ans, il va se faire virer du lycée. » Voilà. Et ça se passe pas très bien au niveau de sa scolarité, il y a un problème. Donc elle était vraiment pas bien, vous imaginez, pour ceux qui sont parents. D'ailleurs, qui est parent dans la salle? Désolé. Elle était vraiment préoccupée par rapport à son fils. Et donc elle me dit, est-ce que tu serais OK de faire une séance de coaching avec mon fils? Généralement, je le fais pas. Mais là, je sais pas, j'ai été inspiré par le fait de le faire. Et donc elle arrive avec son fils chez moi, et la première chose qu'elle dit devant son fils de 13 ans, elle me dit « Bon, ben, voilà, il a un peu un trouble d'attention, donc t'étonne pas si après 20 minutes, il en a marre. » Donc je dis « Oui, ok, faites-en. » Et donc, elle part, on fait une séance avec cet enfant de 13 ans, Et après une heure et demie, c'est moi qui me lève et qui dis « Bon, c'est terminé, hein. Il faut qu'on y aille. » Et donc on sort de la pièce et la première réflexion que sa maman me fait, c'est « Comment t'as fait ? Comment t'as fait pour le maintenir attentif pendant 1h30 ?» Et elle voulait absolument savoir ce que j'avais dit à son fils pendant 1h30. Et j'avais promis à son fils « Je ne dirai rien. Ta mère ne saura pas. » Et j'ai reçu un mail de sa maman il y a à peu près un mois. Et elle me disait, je ne sais pas, qu'est-ce que tu lui as raconté? Parce qu'en un mois, il a récupéré tout ce qui lui manquait au niveau de sa scolarité pendant un an. Il est à deux doigts d'être viré de son école. Qu'est-ce que tu as pu raconter en 1h30 à mon fils pour qu'en sortant, il ait envie de bosser comme ça et qu'il se sente mieux? Et elle s'attendait à une formule magique, très compliquée. Je lui dis, la seule chose que j'ai fait avec ton fils, c'est j'ai fait deux choses, en fait. La première chose, c'est que je l'ai vraiment aimé, lui. Je l'ai aimé tel qu'il était. Je ne l'ai pas demandé de bosser les cours parce que sa mère, elle a envie. Je ne l'ai pas demandé de bosser les cours parce que les institutions lui disent qu'il faut qu'il bosse les cours. Et je me suis intéressé à lui. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il aimait dans les jeux vidéo. Je lui ai demandé comment il faisait pour avoir le courage de faire autant le con en classe alors que tout le monde lui disait d'arrêter. Et je lui ai dit que c'était courageux. Sa mère lui dit d'arrêter, les profs lui disent d'arrêter, le directeur lui dit d'arrêter et lui il se dit « Fuck !» Et moi j'appelle ça du leadership. Et je lui ai dit franchement bravo. Mais c'est pas une blague, je le pense sincèrement. Et je lui ai dit, tu sais que t'es inspirant. Combien de personnes sur Terre, et combien de personnes dans la salle, à commencer par moi, osent pas faire des choses parce que des gens leur disent que c'est impossible, parce que des gens leur disent que ça marchera pas, parce que des gens leur disent qu'il faut pas le faire. C'est juste surréaliste le nombre de personnes qui réalisent pas leurs rêves parce qu'ils ont pas le courage de dire fuck. Je dis bravo. Je dis maintenant j'ai quelques questions à te poser, c'était la deuxième chose. Je dis quel rêve tu as? Qu'est-ce qui t'inspire? C'est quoi la vie sur mesure que tu veux? Donne-moi, raconte-moi tes rêves. Oublie la scolarité, raconte-moi tes rêves. Alors au début il était un peu gêné. Je dis non, vas-y, raconte-moi tes rêves. Et après je lui ai simplement posé des questions en le prenant comme un adulte et je lui ai demandé, ok, à ton avis quelle est la voie la plus stratégique pour réaliser ce rêve-là par rapport à la scolarité? Et c'est pas moi qui lui ai dit que l'école était intéressante pour lui. C'est que d'un coup, il s'est rendu compte que pour réaliser ses rêves, le meilleur moyen, c'était de faire ce qu'il fallait pour que sa mère le laisse tranquille. C'était plus optimal pendant les quelques années qui viennent. Que ça allait permettre de développer certaines compétences pour réaliser ses rêves et de lui-même. Alors qu'on n'a pas parlé de la scolarité, pendant un mois, il a bossé. Ça date de 2 mois. Et quand j'ai reçu son mail, j'avais les larmes aux yeux. Parce que je ne savais même pas moi-même que ça pouvait faire ça. 1 heure et demie avec un jeune, juste en l'aimant tel qu'il est. Et j'ai fait exprès d'être dur avec cette maman en lui disant « Mais en fait, tu l'aimes pas. Tu lui demandes d'être quelqu'un d'autre que lui-même. Il est naturellement motivé pour faire ce qui l'inspire. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi ce jeu vidéo-là? Et pourquoi telle manière de jouer au jeu vidéo-là? » J'ai fait beaucoup d'interventions en lycée et en collège. Et quand tu t'intéresses aux jeunes, c'est fascinant. 50 enfants qui jouent au même jeu vidéo ne jouent pas pour la même raison. Ils ne développent pas les mêmes compétences, ils ne développent pas les mêmes talents, ils ne développent pas les mêmes forces, ils ne choisissent pas les mêmes jeux vidéo par hasard. En fait, tout ce dont ils vont avoir besoin plus tard, ils peuvent le trouver dans un jeu vidéo, ils peuvent le trouver dans le sport, ils peuvent le trouver à l'extérieur, ils peuvent le trouver dans plein d'aspects. Et plutôt que de leur dire, voilà comme ça tu dois te comporter, qu'est-ce qui fait que tu es naturellement inspiré et motivé à faire ce que tu fais alors que personne t'a demandé de le faire? Et ça, c'est une découverte incroyable pour moi en termes de neurosciences, c'est que j'ai inverser ma méthode d'accompagnement. Au lieu de demander aux personnes d'être motivées pour faire des choses dont ils ne sont pas motivés naturellement, j'essaie d'aider enfants, du coup, mais surtout adultes aujourd'hui dans ma vie, à trouver ce qui les inspire naturellement et qui fait que personne sur cette terre a besoin de leur rappeler d'être motivé. Je suis sûr que tous ici, il est 1h du matin, vous êtes crevés, vous avez dit à tous vos amis, je suis crevé, je vais dormir. Et on vous parle du sujet. On vous parle du sujet qui vous inspire. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'énergie, vous retrouvez de la force à l'intérieur, vous retrouvez de la créativité, et d'un coup, t'es la personne qui est réveillée, c'est les autres qui te disent « Ah, je suis fatigué, je vais aller me coucher. » Comment ça se fait? Et ça, c'est une vraie réflexion intéressante sur le cerveau. C'est que tu ne peux pas motiver quelqu'un à faire quoi que ce soit qui est en dehors de son système de valeurs, qui est en dehors de ce qui est réellement important pour lui. Je peux passer des heures et des heures, je fais que ça depuis 8 ans, du 1er janvier jusqu'au dernier jour de l'année, à étudier le comportement humain, essayer de comprendre le cerveau, essayer de comprendre comment créer le bien-être, comment fonctionne la chimie dans le corps, comment fonctionne la physiologie, comment fonctionnent les micro-expressions. Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un me rappelle de faire ça? Non! J'adore ça! J'ai fait plus de 1000 vidéos gratuites. Est-ce qu'il y a besoin que quelqu'un me dise « David, ce serait bien que tu fasses une vidéo ?» Non, il y a besoin qu'il y ait des gens qui me disent « Arrête. Arrête. » Par exemple, mon métier aujourd'hui, c'est de parler. Et régulièrement, ma chérie me dit « On est dans le lit, il est 23h. » Elle me dit « On n'est pas en conférence, mon chéri. Il faut que tu parles moins fort. T'as pas besoin d'être en mode comme ça sur... » Parce que je suis pareil dans le lit. C'est compliqué quand même. Et donc, aujourd'hui, je fais quelque chose qui m'inspire. Donc, naturellement, je vais avoir d'énergie. Par exemple, je vous donne quelqu'un que j'ai accompagné qui était conseiller en patrimoine. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'inspire? Il me dit, voilà, première route. Deuxième route. Mais qu'est-ce qui t'inspire? Et après, à force de demander, il me dit, les bonsaïs. Je vois pas le rapport entre mon métier et les bonsaïs. Comment on va faire? Et pendant un an, je l'ai saoulé. Elle lui dit, mais et si tu vivais avec une activité autour des bonsaïs, ça te donnerait quoi? Et pendant un an, Je l'ai semé avec ça. Aujourd'hui, il est en train de créer son hôtel. Il fait venir des maîtres japonais pour le décorer. Il y a des bonsaïs de partout. Et il va commencer à m'accompagner des clients conseillers en patrimoine qui va les amener dans son hôtel. Et pendant un an, j'ai dû le saouler à « va te créer une vie sur mesure ». Donc par exemple, il y a plein de gens aujourd'hui, c'est l'inverse d'avant, qui me disent « d'où tu sors ton énergie ?» Mais en fait, je sors mon énergie du fait de faire quelque chose que j'aime. Et tous les enfants, ils ont de l'énergie quand ils font quelque chose qu'ils aiment. Mais j'insiste sur un mot, parce qu'il est peu compris le mot « amour ». Et je vais appuyer sur la définition d'Einstein. Souvent, on parle d'amour dans la partie agréable. On dit « ah, oh, j'ai un petit sentiment d'amour », c'est la partie agréable. Mais ça, c'est 50%. Ce que tu ressens quand tu as un coup de foudre, c'est pas vraiment de l'amour. C'est un fantasme. Généralement, d'ailleurs, à la hauteur où ça monte, tu as la même vitesse à la descente.
Comment ça va à la pente ?
Mais vraiment, souvent en coaching, quand j'ai des personnes qui me disent « Ah ouais, il sent toujours bon, il transpire pas, il est toujours à l'écoute, elle est toujours de bonne humeur, toujours orientée à action et résultat. » Moi, dans ma tête, je me dis « C'est une question pour moi. »
Non,
et si ça tourne, c'est moment. J'avais trop envie de vous raconter ça. Ah bon, merci. Et donc, Einstein, il parle de l'amour comme la synthèse et la synchronicité des opposés. C'est une phrase compliquée, mais pour dire juste une chose, c'est que aimer quelqu'un, c'est l'aimer pour les deux côtés de la personne. Tu sais que t'aimes vraiment quelqu'un quand, lorsqu'il te fait chier, tu restes. Là, tu sais, quand ma chérie me fait vraiment chier et que je reste, là, je sais que c'est bien. C'est la bonne personne. Parce que c'est facile d'aimer quand c'est confortable. Et donc, tomber amoureux d'un projet, c'est pas avoir un projet confortable. Et les gens confondent l'amour et le confort. Tomber amoureux d'un projet, c'est le pianiste qui va se faire mal aux mains, mais qui est tellement inspiré qu'il continue. C'est Céline Dion qui va bousiller sa voix des fois et qui va devoir ne pas parler pendant juste 15 jours sans parler. Vous imaginez pour moi ce que ça pourrait être, 15 jours sans parler. Ça serait horrible. J'ai fait Vipassana, c'était horrible. 10 jours sans parler. Donc, je me parlais tout seul. Ouais. Je me suis rembrouillé. Qu'est-ce que je racontais ? L'amour, ouais, c'est ça. C'est la chaleur, je vais me mettre tout nu. Alors, donc l'amour, c'est la synthèse et la synchronicité des opposés veut dire que quand tu tombes amoureux d'un projet, tu aimes à la fois la partie qui est agréable et la partie qui est désagréable. Par exemple, là, je viens d'enchaîner 6 jours de tournage dans les gorges du Verdon. Et donc pour tourner, on va se lever à 5h du matin, voire même avant, tourner très tôt le matin, tard le soir, parce que la lumière, là, cette heure-là, c'est pas bon pour tourner. Et on va être épuisé. Mais je sais que ça m'inspire, parce que malgré l'épuisement, malgré la fatigue, malgré les moments difficiles où avec la fatigue, l'équipe des fois elle pète un câble, eh ben j'ai encore envie de refaire. J'ai encore envie de continuer à faire ce truc-là. Et c'est pour moi ça une vie sur mesure. C'est pas une vie qui est confortable, c'est une vie où malgré l'inconfort, ça t'inspire tellement que tu continues. Tu vois pas ? Et c'est un truc super important, parce que c'est le point commun que j'ai pu observer chez les gens qui réalisent la vie qui les inspire. Ils n'ont pas une vie plus facile, ils ont juste une vie qui les inspire plus, qui fait que malgré les difficultés, ils continuent et recommencent. Et d'ailleurs, tout ce qu'on a envie de créer, c'est important d'être validé, qu'on est prêt à vivre la partie inconfortable et la partie agréable. Et il y a une confusion qui est importante, il y a une subtilité qui est importante à comprendre, parce que si l'enfant pense qu'une vie sur mesure, c'est une vie agréable, quoi que tu fasses, tu vis de l'inconfort. Peu importe à quelle échelle tu joues, peu importe que tu essayes de rester chez toi tout seul, ce que j'ai essayé de faire pendant des années et de me replier sur moi, j'avais de l'inconfort. Donc tu n'échappes pas à l'inconfort. D'accord ? Il y a une loi qui est magnifique au niveau scientifique, c'est, on l'a appris en chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On ne peut pas échapper au fait de vivre confort et inconfort. Si tu demandes à quelqu'un, j'ai un défi pour toi, trouve-moi un aimant, je parle du bout de métal, trouve-moi un aimant qui ne fasse qu'attirer et qui ne repousse pas. Et bien tu peux voyager au travers de toute la planète, tu ne trouveras pas un aimant qui fasse que attirer ou alors qui fasse que repousser. Donc, quoi qu'il se passe, je vais vivre des moments agréables et des moments désagréables. Mais, si ces moments agréables et désagréables sont connectés à quelque chose qui m'inspire, bah, malgré la difficulté, je continue. J'imagine, juste par curiosité, dans ceux qui ont levé la main qui étaient parents, ou ceux qui pensent être parents, en tout cas. Dans ceux qui ont levé la main et qui sont parents, qui vit des moments incroyables, inspirants, les larmes aux yeux, vous êtes touchés, c'est magique d'avoir des enfants. Qui? Ce que j'adore, c'est quand il y a le couple que là et qu'il n'y en a qu'un des deux qui lève la main. Qui se regarde, qu'est-ce que t'en penses? Après, j'ai remarqué que le pourcentage de mains qui se lèvent se réduit avec l'âge de l'enfant qui monte. Ok, juste par curiosité, je ne le dirai pas à vos enfants. Qui parfois en a marre de ses enfants? Sincèrement, ça restera entre nous. Ok. Qui vit des moments d'harmonie et de paix avec ses enfants? Qui vit des moments de guerre avec ses enfants? Vous avez remarqué qu'en fait, peu importe la méthode d'éducation que tu vas avoir, peu importe la méthode d'éducation, tu vas avoir guerre et paix, tu vas avoir des moments conflictuels et des moments d'harmonie, tu ne peux pas échapper à ces deux polarités. Et c'est un fantasme de vouloir échapper à l'autre polarité. En revanche, tu peux apprendre à gérer ces deux polarités. Tu peux apprendre, par exemple, j'ai pu interviewer quelqu'un qui est son métier c'est de discuter avec des preneurs d'otages au téléphone. Donc j'imaginais la subtilité qu'il doit avoir dans le langage. On pourrait penser que c'est quelqu'un qui va être que agréable, mais il va pas être que agréable, parce que s'il est que agréable, le preneur d'otages, il va prendre le lead sur lui. Et donc il doit bien maîtriser en permanence, savoir des fois challenger le preneur d'otages et savoir des fois soutenir le preneur d'otages. Et ce qui est intéressant quand tu regardes l'histoire d'un médiateur, c'est que souvent c'est quelqu'un à la base qui détestait le conflit. Mais au lieu de le fuir comme il a fait pendant des années, un bon médiateur c'est quelqu'un qui au lieu de fuir le conflit, apprend à organiser du conflit, apprend à gérer du conflit, apprend à créer du conflit, et le fait de le créer lui-même, il a le lead dessus plutôt que de le subir. Parce que tout ce qu'on n'apprend pas à gérer et qu'on n'apprend pas à organiser nous-mêmes, on va quand même devoir le vivre et créer par les autres. C'est fascinant de voir que si je ne prends pas de lead dans ma vie, c'est pas moi qui prends le lead de faire grandir ma santé, mon couple, mes finances, chacun des domaines de ma vie. C'est d'autres personnes qui prennent du pouvoir dans ma vie et qui le font à ma place. Et je me plains d'être victime d'autres personnes. Donc de toute façon, je n'échappe pas à l'inconfort, mais je peux prendre le lead et organiser l'inconfort de ma vie. Tout ça pour dire que ce soit pour soi ou avec ses enfants, je trouve ça magique d'encourager les enfants à vivre la vie qui les inspire, à trouver ce qui les touche, à rencontrer des gens partout dans le monde. J'adore le fait qu'on puisse voyager de plus en plus facilement maintenant. Et le plus beau moyen que j'ai trouvé de trouver ce qui t'inspire, c'est de rencontrer plein de personnes différentes qui vivent la vie qui les inspire. Et c'est un facteur commun que j'ai trouvé dans toutes les personnes quand je leur demande « Mais d'où te vient l'inspiration de faire ça ?» Et souvent, ça vient d'une rencontre. J'ai rencontré telle personne, ou j'ai vu telle personne à la télé, ou j'ai lu tel livre, parce que jusqu'à ce moment-là, je n'avais même pas idée que c'était possible de faire ce métier. Je n'avais même pas idée que c'était possible de vivre comme ça. Et en encourageant les enfants à rencontrer des personnes qui les inspirent, ça permet d'augmenter les probabilités qu'ils se disent « ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Ça, ça me touche. Ça, je suis prêt à y passer des heures. » J'ai une personne en coaching, il y a une de ses filles, elle adore la danse. Elle peut passer des heures et des heures et des heures et des heures. Il n'y a pas besoin de la motiver à danser. Naturellement, elle est inspirée à danser. Son fils, il est inspiré par les mathématiques. Pas besoin de motiver son fils pour faire des mathématiques. Newton, par exemple, sa mère, à Newton, voilà, Newton, était obligée de lui dire « Eh oh, il faut manger. » Parce qu'il était tellement inspiré par ses recherches et ses mathématiques depuis la tendre enfance que naturellement, il avait un drive de l'intérieur. Naturellement, je fais du Jean-Claude Van Damme, désolé, hein, je parle un peu... Il avait une force venant de l'intérieur qui l'inspirait à faire ce truc-là. Et je crois que c'est tellement important d'ouvrir la possibilité de dire, écoute, peut-être que ce n'est pas ça qui t'inspire, mais peut-être qu'il y a d'autres choses. Et juste, va explorer. Et c'est un conseil que j'ai envie de donner aux enfants, aux ados, aux adultes et à moi-même. Parce qu'il y a une étude scientifique, je ne sais plus de quelle université elle est, qui montre qu'il y a plein de talents qu'on a tous, dont on ne sait même pas qu'on a le talent, parce qu'on n'a pas encore eu l'expérience
pour utiliser ce talent et découvrir « Waouh ! Regarde ! Je suis talentueux !» Sauf que si j'ai toujours la même vie tous les jours pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne me donne pas la possibilité de découvrir ce qui est important pour moi. La troisième chose dont j'ai envie de parler, et c'est pour moi qui est super important, il y a une étude scientifique qui a été faite. Alors, il y a Stanford qui l'a fait, c'est sûr, il y a plusieurs autres qui l'ont fait. Ils se sont demandé, c'est quoi le dénominateur commun aux personnes qui vont au bout de leur projet et qui vivent une vie qui les inspire. Ils se sont demandé, est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est la taille? Est-ce que c'est la couleur de peau? Est-ce que c'est le milieu culturel dans lequel tu es né? Est-ce que c'est l'argent que tu possèdes? Est-ce que c'est ton QI? Est-ce que c'est tes compétences sociales? C'est quoi? Et il y a beaucoup d'études qui montrent qu'un des dénominateurs communs à la capacité à réaliser ce qui est important pour soi, c'est le courage. Le courage, c'est la capacité à... Tu as deux doigts d'abandonner, à te relever et continuer. Le courage, et c'est une phrase, je ne sais pas de qui elle vient, mais j'adore cette phrase. Le courage, c'est quand les voix de l'intérieur, ta voix à l'intérieur de toi, elle est plus forte, elle est plus grande, elle est plus consistante, elle est plus intense que toutes les voix de l'extérieur. C'est-à-dire que même si tes parents te disent « Non, ce n'est pas la bonne manière de faire, ce n'est pas la bonne manière d'éduquer, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire », même si tes collègues de travail te disent « Il ne faut pas faire comme ça », même si le monde, pourquoi pas, te dit « C'est nul comme ça », il y a un truc à l'intérieur de toi qui te dit « Je vais aller vivre ce qui m'inspire quand même. Je suis prêt à traverser l'adversité, je suis prêt à traverser les difficultés, je suis prêt à être critiqué, rejeté, humilié. C'est trop important pour moi de m'honorer. » La question qui me fascine, c'est comment on fait pour s'aider soi-même et aider un enfant ou un adolescent à développer son courage. On ne peut pas dire de façon sûre qu'il existe un moyen, mais ce qui est sûr, c'est qu'il existe des voies qui peuvent augmenter les probabilités que tous ici on ait plus de courage. Il existe des voies qui peuvent augmenter les probabilités qu'un enfant ait plus de capacité à être courageux. Par exemple, il y a une étude qui montre que le simple fait d'expliquer des fois plusieurs fois à un enfant que quand il est challengé, quand il vit un moment qui est difficile, qui est désagréable, qui est inconfortable, quand il est critiqué, quand il est rejeté, que ce soit par un ami, par un enseignant, par ses parents, que la partie de challenge au niveau neurologique, quand on regarde comment le cerveau évolue, fait au moins autant, si ce n'est encore plus, grandir son cerveau que quand c'est confortable et agréable. Et l'étude montre que le fait d'enseigner à des enfants que le challenge et les difficultés ont un sens pour sa croissance, juste derrière, ils observent que les enfants ont plus de capacité à se relever et continuer à avancer. Et pareil, avoir lu ça et découvert ça m'a mis les larmes aux yeux de me dire... Ce qui se passe beaucoup et ce que j'observe beaucoup dans mes séminaires, et c'est un peu mon propre parcours. Donc j'ai grandi en détestant mon père. Mon père a été abandonné par son père, puis par sa mère, puis par sa grand-mère. Et pendant mon enfance, j'ai eu l'impression que mon père ne m'aimait pas. Donc je lui en ai beaucoup voulu. Je développais souvent des angines 3 à 4 fois par mois. Ce qui s'est avéré avec du recul purement psychosomatique. Et j'avais du mal avec toute la partie difficile de ma vie. J'avais du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre les autres élèves de ma classe. J'ai du mal à comprendre la violence que je voyais autour de moi. J'avais du mal à comprendre l'agressivité. Et du coup, j'avais tendance à me replier sur moi, d'où les jeux vidéo et d'où toutes ces heures à être sur l'ordinateur. Mais aujourd'hui, si on me posait la question... Est-ce que tu veux changer le moindre truc de ton enfance? Est-ce que tu veux rendre juste un tout petit peu plus confortable ton enfance? Est-ce que tu veux changer juste un détail? La réponse spontanée qui vient, c'est surtout pas. Tu juste touches à rien. Touche à rien. Parce qu'en fait, c'est tous ces moments où j'ai eu l'impression de ne pas être aimé par mon père qui font en fait que j'ai appris à m'aimer moi-même, qui font que j'ai appris à être fier de moi moi-même. Aujourd'hui, c'est juste dingue comment j'aime mon père. Ça a pris du temps avant que je réalise que j'ai eu un père qui était sur mesure, il a été designé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un là-haut, la vie, l'univers, je pense qu'ils l'ont... C'était parfait. Ils ont vraiment créé le père parfait pour moi. Et je pensais que le fait qu'il ne me dise pas qu'il m'aime ou qu'il ne me dise pas qu'il était fier de moi voulait dire qu'il ne m'aimait pas. Mais c'était juste que, ben, par rapport à son histoire de vie, dire je t'aime, c'était pas facile en fait. Quand tu as été abandonné, tu ne sais pas vraiment ce que c'est de dire je t'aime à quelqu'un. Ce n'est pas évident. Le jour où j'ai compris que j'avais eu le père parfait pour m'aider à vivre la vie que j'ai aujourd'hui, j'ai eu une énergie juste de dingue. Et c'est important ce truc-là, parce que plein de personnes que j'ai dans mes formations, dans mes salles, ont eu un parcours qui parfois a été difficile. Et du coup, ont tiré la conclusion inconsciente qu'il fallait fuir la douleur, fuir l'inconfort, fuir les challenges. Or, on sait aujourd'hui, au niveau neurosciences, que le seul et unique moyen pour que ton cerveau soit en croissance, c'est d'être à la frontière qui est fine entre le soutien et le challenge. On sait aujourd'hui que si tu es dans juste un cocon qui est trop confortable, tu vas progressivement mourir et tu vas arrêter de grandir et croître. J'ai deux syndromes de gens qui sont en entreprise. Soit effectivement le burn-out, beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne ils sont en burn-out, donc là ils brûlent. Mais j'ai aussi plein de personnes, ils ne me disent pas « je brûle », ils me disent « je m'ennuie ». Ils me disent « en fait c'est tout confortable, je connais tout ce que j'ai à faire tous les jours au travail, c'est facile ». Ce n'est pas inconfortable. En fait, le problème qu'ils ont, c'est que c'est devenu trop confortable. C'est tous les jours la même vie. Je n'ai pas de nouveaux challenges, pas de nouvelles difficultés. Donc, c'est confortable. Mais au bout d'un moment, ce confort fait qu'ils ont l'impression qu'il manque du piment, il manque de la stimulation. Et c'est pareil quand on regarde le développement d'un enfant. Si un enfant il est surprotégé ou si un adulte est surprotégé, et qu'on l'empêche de vivre du challenge en disant « Non, non, il ne faut surtout pas qu'il revive ce que moi j'ai vécu, parce que ça a été difficile. » Et que je veux lui échapper de passer par mes difficultés et le priver de ça, je le prive aussi de tout l'apprentissage qu'il y a derrière les difficultés. Ça n'est pas possible d'être fier de soi sans difficulté. Donc si je prive mon enfant de difficultés et si je le surprotège, je le prive de créer le muscle et de se renforcer et grandir. Et c'est super important parce que dans toutes les personnes que je vais accompagner, il va y avoir vraiment, et je suis passé par là, vu que j'étais en mode, je veux de l'harmonie, je veux de la paix, je veux que ça soit confortable, agréable. J'ai tout fait pour essayer de créer juste, on évite le conflit, on évite la tension, on évite la douleur. J'ai eu beau essayer, ça ne marchait pas. Et plus j'essayais de fuir l'inconfort, moins j'arrivais à le gérer et le vivre. J'ai tout essayé en termes de psychologie positive, de pensée positive, d'accompagnement. Et j'étais devenu un optimiste dépressif. Sincèrement, comme plein de gens en réalité. Parce que j'essayais tellement tout le temps de dire « il faut que je sois positif, il faut que je sois positif » qu'au final, je me fouettais dès que je ne l'étais pas. Au moins avant, je pouvais être en colère et tout allait bien. Là, j'étais en colère et là, ça n'allait pas. Avant, je pouvais insulter mon voisin et ça allait bien. Là, j'insultais mon voisin et ça n'allait pas en plus. Donc, je me mettais à avoir peur d'avoir peur, être en colère d'être en colère. Et je me suis dit « mais tiens, c'est intéressant. Pourquoi toute cette démarche pour changer ta vie si au final... tout ce que tu apprends t'apporte autant d'inconfort. » Et cette réflexion m'a amené à me dire, mais tiens, et si, comme Stanford le montre, l'inconfort avait un sens? Et si être challengé, être rejeté, être critiqué, être pourquoi pas détesté, être parfois abandonné, entre guillemets, par un autre collègue de la classe ou par un collègue au travail, hop, merci, avait un sens? Et si on se renforçait autant que dans les moments où on nous soutient, dans les moments où ce n'est pas facile. Et si, par exemple, parfois, quand le professeur n'est pas parfait en termes de soutien et qu'il n'a pas la bonne communication, et s'il apportait aussi, finalement, à l'enfant pour trouver les ressources en lui pour communiquer autrement avec le professeur. Et c'est fascinant, ce truc-là, parce que j'ai pu accompagner plein de parents, non pas à changer le professeur, mais à aider l'enfant à savoir comment tu peux trouver les ressources et les outils pour savoir interagir avec le professeur que tu as là, maintenant, tout de suite. Et j'insiste sur ce truc-là, parce que c'est trop facile de vouloir éradiquer l'inconfort alors que ça n'est pas possible. Et que l'inconfort a un tel sens pour nous. Donc, mon message là-dedans, c'est que plus vite on apprécie autant la partie agréable que la partie désagréable, plus vite on peut grandir. Et le courage, c'est d'avancer malgré les difficultés, malgré les erreurs, malgré les critiques, malgré les échecs. Ce message-là, il est super important pour moi parce que j'ai vu plein d'enfants en lycée. Quand je leur demande qu'est-ce qui fait que tu n'as pas l'énergie, ce n'est pas des enfants qui ont été sur-challengés, c'est des enfants qui ont été sur-protégés. Et donc, mon propos là-dedans, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre cadre et ouverture. Entre vas-y, fonce, et en même temps, je te laisse tomber, je te laisse rater, je te laisse échouer, je te laisse te faire mal, je te laisse faire des erreurs, je te laisse avoir des échecs. Il est top, hein? Et c'est super important pour moi, cette notion-là, parce que le truc aujourd'hui que je fais le plus en coaching individuel avec les adultes, c'est aider les personnes à être plus à l'aise avec les difficultés. Et j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant « j'ai tel rêve ». Sauf que entre le rêve et là où tu en es aujourd'hui, tu vas avoir des épreuves. Si tu ne crées pas le muscle à te relever des épreuves, bah, tu abandonnes à la première épreuve. Et accompagner pour moi un enfant à se relever des épreuves, c'est quelque chose qui a un sens qui est énorme pour moi. Et qui permet derrière que peu importe l'adversité à l'extérieur, tu as les ressources à l'intérieur. Et le meilleur moyen de vous en convaincre, si vous avez un doute ou si ce que je viens de dire vous énerve, ce qui est normal, si c'est le cas, lisez 200 biographies de personnes qui ont marqué l'histoire. Vous n'en trouverez aucune qui a eu une vie facile. Aucune qui a été surprotégée. Aucune qui a été sursoutenue. Et donc c'est fascinant de voir à quel point c'est important d'être soutenu, c'est important d'avoir le professeur, on a tous eu un professeur ou un entraîneur qui a des fois su nous dire « je crois en toi, tu as du potentiel ». Mais c'est aussi important, et je sais que ça peut paraître à contre-courant ce que je vais dire, c'est aussi important d'avoir des gens autour de soi qui te disent parfois « je ne crois pas en toi ». Parce qu'en fait les deux te développent. Si tu n'as que des gens qui te disent « je crois en toi », à la première personne qui te dit « j'y crois pas », tu ne sais pas comment réagir. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut être les personnes qui disent « je crois en toi » et qu'à l'extérieur, il y a tout ce qu'il faut pour que nos enfants aient des personnes qui doutent d'eux. On peut déléguer à la vie. Il y aura des professeurs, il y aura des amis, il y aura des collègues de travail, il y aura des collègues au club de sport qui pourront douter des enfants, qui pourront douter de nous. Mais au lieu de se dire « c'est un problème », on pourra se dire « c'est une opportunité ». C'est une opportunité à grandir personnellement, c'est une opportunité à aider mon enfant à apprendre à transformer les difficultés, les challenges. Tiens, juste par curiosité, qui fait pas mal de sport? Qui fait pas mal de sport? Ok? Donc ceux qui ont levé la main, qui a déjà eu de la souffrance physique? Pourquoi ça ne vous arrête pas? Ça ne les arrête pas parce que ça a du sens. Et c'est vraiment ça qui est super important pour moi dans la notion d'échec, c'est que j'ai envie d'encourager un maximum d'adolescents, de jeunes à échouer le plus possible. J'étais à Lyon, j'ai grandi à Lyon, je prends le métro et je vois une affiche, je ne donnerai pas le nom de l'entreprise, juste pour les respecter. Et l'affiche marque, donc là au-dessus, a dit « l'échec est le fondement de la réussite ». Jusque-là, je me dis « waouh !» C'est une entreprise qui est là pour aider les enfants au niveau de la scolarité. Et en dessous, c'est marqué en gros « il a tort ». Et je me dis, et ça m'avait, j'étais juste en train de développer ce que je commençais à faire, j'avais peut-être 20, 21 ans, et ça m'avait vraiment énervé. Je me suis dit, mais c'est énorme le message qu'on est en train d'envoyer à tous les jeunes dans le métro. C'est juste, sois parfait, échoue pas, rate pas. Mais en fait, qu'est-ce que tu peux faire de grand sans échouer? Et j'aimerais que là, tous ensemble, déjà, commencer par pour nous-mêmes et ensuite pour les ados et les enfants autour de nous, qu'on valorise l'échec, qu'on encourage l'échec, même qu'on célèbre l'échec. Qu'on se dit, tu sais quoi? J'ai foiré aujourd'hui. C'est mon plus beau aujourd'hui. Ça faisait 3 mois, je n'avais pas fait aussi bien. Imaginez une vie où tu te lèves le matin et tu te dis, j'ai le droit d'échouer. Calme-toi. J'ai le droit d'échouer, j'ai le droit de réussir, j'ai le droit de tester, j'ai le droit d'expérimenter, j'ai le droit de faire autrement, j'ai le droit de mal faire, j'ai le droit même d'être critiqué, d'ajuster, j'ai le droit de rater. Imaginez, je pense que tous ensemble, on ferait un petit paix comme ça. Non ? On pourrait détendre la pression. Non mais c'est dingue le nombre de choses que j'ai pas fait en me disant « Ouais, mais tu te comprends, je vais pas être bon en vidéo ». La première vidéo, c'était un sketch, ma première vidéo. J'ai mis 6 mois à acheter la caméra, 6 mois à filmer, 6 mois à la publier, à la mettre sur YouTube. Et quand j'ai cliqué sur le bouton upload, c'est le bouton publish, c'était incroyable comme moment. Juste parce que j'avais peur d'échouer, peur d'être critiqué, peur de rater. Bon, il se trouve qu'il y a un type sorti de nulle part sur YouTube, mais je pense qu'il y a des gens qui sont payés sur YouTube pour ça. C'est une bande de cousins. Et il y a un type sorti de nulle part sur YouTube, mon premier commentaire, première vidéo qui dit « Tu mérites pas de vivre ». C'est beau quand même. Non mais, la vie, franchement, elle est généreuse, non? On peut l'applaudir? On peut l'applaudir, ce gars. Et c'est beau parce que pour quelqu'un qui avait des pensées de suicide, je veux dire, c'est. Franchement, le mec, il était sur mesure. Alors, je pense, pour ça que je dis que c'est des cousins, parce que je suis étonné quand je publie une vidéo, même de 30 minutes. Dans les moins de 2 minutes, j'ai 2 j'aime pas. Donc je pense que j'ai 2 cousins abonnés qui suivent toutes mes vidéos. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de la voir. Ils sont missionnés, les gars. Ils ont le téléphone. Attends, il y a une nouvelle vidéo. Clique sur j'aime pas. Mais en fait, c'est parfait. C'est super de vivre ces moments-là. C'est pas confortable, mais c'est super. J'en ai eu un autre quelques mois plus tard. J'ai un type qui m'a dit « Arrête de mettre le costume de ton père. » C'était pas le costume de mon père. Mais je comprends pourquoi il a dit ça. Il était un peu trop grand. Et donc, heureusement qu'il a fait ça, j'ai changé de costume grâce à lui. Et donc, dans tout mon parcours, j'ai eu plein de moments qui étaient désagréables, qui n'étaient pas confortables. Mais ces moments-là aussi, ils te forgent. Et heureusement qu'il y a cette petite voix maintenant qui me dit, David, tu as le droit d'échouer. Juste, va rater le plus vite possible. Tu as le droit d'échouer magistralement et tu as le droit d'échouer rapidement. On peut répéter ensemble ? Qu'on célèbre ça ensemble ? On va répéter tranquillement. J'ai le droit, d'échouer magistralement et rapidement. C'est beau ça. Applaudissez-vous. C'est important pour moi ce truc-là parce que il y a une phrase de Gandhi que j'aime beaucoup qui c'est ma vie est mon message. Et il y a une autre phrase, rien à voir avec Gandhi, c'est Maximus de Gladiateur. C'est deux sources d'inspiration. Ils étaient des cousins, je pense. Et il dit cette phrase dans Gladiateur. Il dit « Nos actes résonnent dans l'éternité ». J'aime beaucoup cette phrase. Elle me permet de me rappeler que qui je vais être dans ma vie, ça n'a pas seulement d'influence sur moi, ça a de l'influence sur les gens avec qui je vais discuter, avec qui je vais parler, ça a de l'influence sur mes enfants, mes petits-enfants, ça a de l'influence dans le taxi que je vais prendre. J'aime cette idée et ça me donne de l'énergie, ça me donne du courage, ça me donne envie d'échouer, de me dire si moi j'ose échouer, si moi j'ose y aller, si moi j'ose aller vivre mes rêves, le pire qui puisse se passer, ok, c'est d'échouer, mais le pire qui puisse se passer en réalité, c'est juste d'être fier de moi en fait. Et si j'ose le faire, il y aura peut-être quelqu'un qui pourra se dire autour de moi, bah, si lui peut échouer, je peux le faire. Imaginez, on est, je sais pas, 700, si on est juste 100 qui sortent en se disant « j'ai le droit d'échouer magistralement et rapidement », le nombre de personnes par ricochet, par résonance, qui peuvent s'autoriser à faire des choses. Parce qu'on ne peut pas demander à nos enfants d'aller échouer, prendre des risques, faire des choses différentes, si déjà on n'ose pas aller faire des choses challengeantes. Par exemple, un des challenges pour moi où j'ai eu peur d'échouer, il y a 2 ans, je me suis dit « tiens, j'ai envie de faire un one-man show ». Donc j'ai réservé une salle de 1400 personnes. Puis 2 heures après, je me suis dit pourquoi ? Pourquoi j'ai fait ça ? Je n'avais pas écrit de spectacle encore. Donc, j'ai appelé ma mère, je lui ai raconté. Et puis après, j'avais 3 mois pour faire mon spectacle. Ce n'était pas confortable, mais ça m'a fait grandir. Et j'ai pu faire ça parce qu'il y a une petite voix qui m'a dit « t'as le droit d'échouer. Juste vas-y, fonce, rate magistralement et rapidement. » Mes interviews aux États-Unis, les premières, c'était beau, franchement. Je ne sais pas comment les Américains ils ont fait. Hein. Le pire moment en interview avec un Américain, c'est quand il raconte une blague et que tu ne comprends pas que c'est une blague. C'est un moment difficile pour tous les deux. Pour tous les deux, c'est difficile. Parce que tu vois, lui, le mec, il a fait 500 interviews dans sa carrière, c'est la première fois que cette blague ne marche pas. Et toi, tu le regardes. Yes. Alors après, j'avais essayé une autre technique qui était de rire dans le doute. Et si vous regardez mes interviews d'à peu près 2014 aux États-Unis, je rigole tout le temps. Et j'ai des Américains qui disent « Mais pourquoi tu rigoles ?» Ben je rigole parce que je ne sais pas quand faut rire. Donc j'avais développé une technique, c'est pas facile de rire quand tu n'as pas de raison. Tu fais Et des fois, c'était pas drôle. Le mec me raconte qu'il a perdu sa femme. C'est pas un moment sympa. Mais heureusement que j'ai fait ça. Il y a des gens qui m'ont dit, première vidéo aux États-Unis, ton anglais, il est pas bon. Tu devrais pas faire des vidéos en anglais. Mais je dis, mais comment je vais faire du coup? J'ai une fois un client qui me dit, j'aimerais aller à la salle de sport. Je dis, d'accord, et pourquoi tu vas pas? Il me dit, parce que je suis pas musclé. Je lui ai dit, du coup, ce que je comprends, c'est qu'à l'entrée de la salle de sport, il y a un mec qui dit, non, désolé, pas musclé. Ça vaut pas? Non, on peut répéter ensemble, ça me ferait du bien. Un petit. J'ai le droit d'échouer magistralement et rapidement. C'est bien. Vous étiez 7 à le dire, mais c'est pas grave. Alors la cinquième, pour terminer, elle est super importante pour moi. C'est pas la souplesse physique qui m'intéresse, c'est une métaphore. J'aime beaucoup, je suis très inspiré par Ken Robinson, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent. Non, bon, c'est pas grave. Vous tapez Ken Robinson sur Google. Et j'aime beaucoup cette idée que... Calme-toi. J'aime beaucoup cette idée que s'il y avait une compétence à donner, à aider nos enfants à développer, une seule, c'est la flexibilité, la souplesse, dans l'idée que le monde qu'on va avoir dans 30 ans, il n'aura rien à voir avec le monde d'aujourd'hui. On est en plein début d'exponentiel. Il y a plein de métiers qui vont disparaître, il y a plein de choses qui vont changer. Et la souplesse, pour moi, elle est intéressante à deux niveaux. Elle est intéressante à titre personnel, parce que quand tu pars sur un nouveau défi, par exemple, là, mon nouveau défi, donc, c'est la suite des États-Unis, c'est de faire tout ce que je fais, mais cette fois en anglais. Là, en novembre, je vais faire mes premières conférences à Los Angeles, c'est un bon rêve, et je m'autorise le droit d'échouer magistralement et rapidement, ça arrive. Et quand tu vas vers un objectif, ben, la première souplesse, c'est une souplesse intérieure, puisque des fois, tu avais pensé à une stratégie, mais ce n'est pas la bonne. Et c'est faire autre chose, tester autrement, s'y prendre autrement, communiquer autrement. Et c'est fou le nombre de personnes qui veulent avoir un résultat. Par exemple, ils veulent déplacer la tour Eiffel, mais ils poussent toujours de la même manière. Et ce n'est pas qu'ils ne sont pas motivés, c'est juste que ce n'est pas la bonne stratégie. Et juste me dire, change d'approche, teste autre chose, pour moi, est un prérequis à pouvoir transmettre à nos enfants et à nous-mêmes. Et l'autre chose, c'est la souplesse extérieure, qui est que le monde, il change tellement vite. Je veux dire, c'est dingue. Là, on est juste au début. Moi, ça m'excite presque. Ça m'excite de voir dans 20 ans comment le monde y va être, tout ce qui va être différent, les nouvelles opportunités, les nouveaux challenges, les nouvelles crises, parce que chaque crise donne des opportunités pour grandir. Et arriver à donner cette capacité à un enfant de pouvoir s'adapter, être flexible, transformer les situations, pour moi, c'est une compétence qui est extraordinaire. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça vous parle? Et ça commence pareil sur soi-même, de se dire, tiens, je vais tester toujours des approches. Et ça demande du coup de reconsidérer vraiment les challenges dans sa vie. Non pas comme un problème, mais comme une opportunité à tester autrement, faire autre chose. Parce que c'est fou, par exemple, là on a fait 6 jours de tournage, le nombre de galères qu'on a en 6 jours, c'est juste dingue. Le drone qui ne marche pas, racheter un autre drone, faire des heures de route, c'est juste dingue. Et en plus, on avait une des personnes de l'équipe qui était enceinte. Donc ça complexifie les choses dans le tournage. C'était pas prévu qu'on a programmé le tournage, qu'elle tombe enceinte. Elle est tombée enceinte dans le précédent tournage. On a tous contribué. Non, je lui ai dit ça, sachez que je lui ai dit ça, elle s'est mariée. Je me suis encore embrouillé. Et donc, qu'est-ce que je vous racontais? La flexibilité, voilà, c'est ça. Voilà, on a des galères sur le tournage. Et c'est dingue comment... Ce qui fait qu'on arrive à aller au bout de la vidéo, c'est le nombre de choses différentes qu'on teste. Vous savez, on a failli déclencher une attaque terroriste lundi matin de cette semaine, parce qu'il nous manquait du matériel. Donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer le matériel à temps, sachant qu'on était dans le sud de la France et que le matériel est à Paris. Donc, j'ai eu une super idée. Parfois, ça ne marche pas. De dire à une personne de l'équipe, prends le matériel, mets-la dans une valise et envoie-la dans le train. Et on a eu la SNCF qui nous a appelé avec une valise abandonnée, ce qui était assez compliqué à gérer. Mais on a réussi à récupérer notre valise. Et si on n'avait pas cette valise, on ne pouvait pas aller au bout du matériel. Enfin, on ne pouvait pas aller au bout du tournage. Et c'est dingue quand je regarde dans ma vie le nombre de choses qui ont pu se transformer en choses possibles en m'autorisant à faire quelque chose qui est différent de la règle, différent de la norme, différent du conditionnement qui nous a été donné. C'est dingue le nombre de fois où la poste m'a dit « Non, désolé monsieur, c'est impossible » et c'est devenu possible. C'est dingue le nombre de fois où on m'a dit « Ça monsieur, personne n'a pu le faire et ça devient possible. » Et arriver à donner à nos enfants le fait que même quand ça paraît impossible, c'est peut-être possible, ça m'inspire vraiment. Et donc, pour conclure, il y a deux choses. Si j'avais David de 15 ans dans cette salle et que je pouvais m'adresser à lui, il n'y a que deux choses que j'aimerais lui dire. La première, j'aimerais lui dire à cet enfant de 15 ans qui serait dans la salle, peu importe ce que les gens te disent, peu importe tes peurs, peu importe tes doutes, peu importe l'inconfort, peu importe ce que peuvent dire tes professeurs sur toi ou ta mère sur toi ou les conflits que tu peux vivre, tu mérites de vivre une vie extraordinaire. Tu mérites d'aller vivre la vie qui t'inspire. Ça peut commencer maintenant, aujourd'hui. Ça peut commencer avec un tout petit pas. J'ai commencé mon premier défi à mes 15 ans en levant la main en cours. Ça paraissait ridicule pour mes amis, mais c'est ce lever la main en cours qui m'a amené à faire un one-man show, traverser la planète, rencontrer les gens qui m'inspirent. Je lui dirais, commence aujourd'hui avec un petit pas. Ce petit pas, il va changer ta vie. Ce petit pas, il va faire que j'étais mal dans ma peau, que je pensais que je ne serais jamais en couple de ma vie. Ce petit pas va faire qu'un jour, tu arriveras à être en couple avec une femme que tu aimes. Ce petit pas va faire que plus tard, tu arriveras à créer une entreprise qui t'inspire. Ce petit pas va faire que je reçois des témoignages de centaines de jeunes qui me disent « Merci, j'ai osé vivre mes rêves ». Des centaines de personnes qui me disent « Grâce à cette décision à tes 15 ans, de lever la main en cours et vivre la vie qui t'inspire, je suis en train de vivre la vie qui m'inspire ». On reçoit des milliers de témoignages de gens qui changent leur vie. Donc je lui dirais « Juste fais ce petit pas ». Pas dans une semaine, pas dans un an, pas dans 30 ans. Fais ce petit pas juste aujourd'hui. Là, va parler à quelqu'un. Fais quelque chose de différent. Et si tu fais tous les jours un truc inconfortable, tous les jours, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ta vie peut changer. Parce que les gens surestiment énormément ce qu'ils peuvent faire en une semaine, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en un an, 10 ans ou 20 ans. Ils sous-estiment à quel point on peut changer sa vie, ou devenir excellent, ou devenir un génie en musique, en sport, en natation, en art, en peinture, en piano, en entrepreneuriat, en éducation. Ils sous-estiment ce qu'on peut faire. Je lui dirais, tu as le droit d'être un génie, tu as le droit d'échouer, tu as le droit de vivre une vie extraordinaire. Ça commence par un tout petit pas là maintenant. Et la deuxième chose que j'aimerais dire à cet enfant de 15 ans, s'il était là, et vous n'imaginez pas le nombre de choses que j'arrive à faire dans ma vie juste pour cet enfant de 15 ans. Plein de fois, j'ose pas faire des choses. Je me rappelle, j'étais à Chichen Itza, au Mexique. Ma chérie me défiait de danser, ce qui est un challenge pour moi. Et je n'osais pas danser. Pendant une heure, je n'osais pas danser, j'avais peur. Et ma chérie a formulé qu'une seule phrase. Une phrase qu'à chaque fois que je la formule, ça me donne de l'énergie, je peux faire n'importe quoi. Elle m'a dit, rappelle-toi d'où tu pars. Rappelle-toi d'où tu pars. Tu vas me dire que pour cet enfant de 15 ans, tu ne peux pas danser. Pour cet enfant de 15 ans, tu ne peux pas traverser ta peur. Cet enfant de 15 ans qui avait envie de se suicider, là, tu n'es pas capable de danser. Elle a prononcé cette phrase dans les deux minutes derrière, je dansais. J'aurais envie de lui dire, juste, fais en sorte de renforcer les voix à l'intérieur de toi. Fais en sorte de renforcer cette certitude à l'intérieur. Peu importe ce que disent tes parents. Et fais partie des personnes qui transforment le monde à leur manière. Fais partie des gens qui arrêtent de se subordonner à quelconque autorité supérieure. Que ce soit le système scolaire, que ce soit tes parents, tes professeurs, que ce soit l'État ou le monde, et va vivre la vie qui t'inspire. Va exprimer ton génie, va servir le monde avec tes talents, va tout donner jusqu'à ton dernier souffle. Parce que la pire chose qui peut t'arriver, la pire chose, c'est au dernier jour de ta vie d'avoir des larmes de gratitude qui coulent sur ton visage, de regarder tes enfants dans les yeux ou ton visage dans le miroir et de dire « je suis fier de moi ». J'ai pas tout réussi, mais j'ai tout donné. J'ai tout essayé. J'ai fait en sorte d'honorer ma vie et de vivre une vie extraordinaire. Fais en sorte de vivre une vie extraordinaire là, maintenant. Voilà ce que je dirais à cet enfant de 15 ans. Et j'aimerais que votre enfant de 15 ans à l'intérieur de vous, ou si vous avez moins de 15 ans, j'aimerais que cet enfant à l'intérieur de vous entende ça. Et que cette conférence ait servi qu'à une seule chose, comme je disais en début de conférence. Que vous sortiez de cet événement avec une décision. Si vous vous dites que vous prendrez la décision demain, statistiquement, il y a 90% de chances que vous ne changerez rien. Si vous vous engagez maintenant, tout de suite, à changer un petit truc, levez la main en cours, postulez à un emploi qui vous fait rêver, changez quelque chose dans votre communication, un petit truc dans votre alimentation, un petit truc, peut-être que dans 10 ans, vous serez en train de dire « Waouh ! Je me rappelle de cette conférence, je me rappelle de la décision que j'ai prise et j'ai changé ma vie. C'est pas la conférence qui a changé ma vie, j'ai changé ma vie. J'ai changé ma vie. J'ai changé ma vie. Merci à vous. Merci. Merci. Merci, merci. Merci, 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 merci.
Merci. Allô? Merci. Non, ça marche pas. Allô? On m'entendait? Merci, David. Maintenant, on va faire une petite question-réponse. Est-ce que quelqu'un a une question ? Levez la main, s'il vous plaît.
Ah, une question.
Ah, c'est pas une question. J'ai vu une main là-bas. Ça fait un peu loin. Tu peux venir ? On va faire les deux.
Il n'y a pas de question.
Si, si, elle arrive.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Ouais. Ouais. Je l'ai fait passer.
Il faut vraiment que j'annonce, ça fait une heure que l'enfant est perdu, il faut que je le dise.
Ah d'accord.
Juste, excusez-moi, deux minutes. Il y a le petit Adam qui est au poste de secours depuis un petit moment et qui a perdu son papa, qui est Jean-Baptiste Maréchal. Il se trouve au poste de secours, le petit Adam. Merci.
Hop. Allez, c'est bon. Allez.
Est-ce qu'il y a des questions ? Un, deux. Je n'ai pas de micro là, si.
Attends, je préfère le voir. Ouais.
M'entends ? D'accord. Est-ce qu'il y a des questions ?
Je préfère regarder dans les yeux.
Posez la question.
Le volume, il est plus bas, non ? Posez
la question.
Je m'entends plus.
Bonjour. Je suis là.
Ah.
Désolée. Voilà. Merci beaucoup pour ta conférence et pour toutes ces inspirations, vraiment. Pour moi, c'est une source d'énergie positive et donc je suis très contente d'être là. Voilà. Donc je voulais commencer par ça.
Ouais.
Mais c'est important pour moi d'abord la gratitude, justement parce que ma question est en rapport avec la gratitude. Plusieurs fois donc dans ma vie, j'ai vu que tu avais fait des vidéos sur ça aussi, sur la gratitude, et plusieurs fois dans ma vie, je me suis retrouvée dans un stade où je me suis dit, ok, je suis heureuse avec ce que j'ai. Ma question est la suivante. J'ai aussi entendu dans ma vie pas mal de personnes qui me disaient je viens d'une culture donc qui est pardon, vous m'entendez bien. Je viens d'une culture où il y a dans ma famille des personnes croyantes, donc j'entends beaucoup ce qu'on dit en arabe alhamdoulillah, ce qui veut dire merci à Dieu, si je le traduis bien. Sauf que souvent je l'ai entendu avec un nouveau, comme il n'y avait pas cette résonance à l'intérieur. Tu vois, il y avait cette phrase, mais à côté on voulait pas forcément, on se satisfaisait de ce qu'on avait, mais on voulait pas forcément aller plus loin. Et moi, dans ma vie aussi, j'ai ces périodes-là, et il y a des moments où je suis dans la gratitude. Ma question, c'est comment tu fais la différence entre les moments où tu éprouves vraiment cette gratitude et tu te dis je suis heureux ou heureuse pour ce que j'ai, et les moments où en fait c'est derrière ça, c'est pas vraiment de la gratitude qu'il y a, c'est juste la peur de je veux plus mais j'ose pas. Je ne sais pas si c'est clair. Ma question est claire ?
La question est super claire. On m'entend ? Okay. On m'entend ? C'est une excellente question. Je me le suis posé beaucoup, cette question, parce que ce n'est pas évident de faire la différence entre... tu vas avoir tout un courant de pensée qui te dit d'apprécier la vie, de profiter, de savourer de ce que tu as déjà, et tout un autre courant de pensée qui te dit, quelque part, sois insatisfait, va chercher plus loin, va chercher plus, va rêve grand, va plus loin. Et ça peut paraître contradictoire, mais ça ne l'est pas, c'est juste paradoxal. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que le maître, dans le sens de la maîtrise, dans le sens du maître dans les arts martiaux, maîtrise les paradoxes. Et quand tu es dans ce qu'on pourrait appeler une vraie gratitude, et que tu es en train d'apprécier ce que tu as, et que tu es en train de te sentir riche et rempli par les relations que tu as, par, dans mon cas par exemple, ma chérie, les gens avec qui je vais travailler, le fait d'avoir un métier qui m'inspire énormément. Quand je vais être connecté à cette gratitude-là, naturellement, je vais avoir une force qui vient de l'intérieur et qui me donne envie de faire plus. Mais ce n'est pas un faire plus dans le sens « il faut faire plus » parce que si je ne fais pas plus, je ne suis rien et je n'ai pas de valeur et je cherche à prouver quelque chose. C'est que t'es, naturellement, regarde, si on prend un scénario très simple, quand tu te sens pauvre dans ta vie, mais je ne parle pas d'un pauvre financièrement, un pauvre global, quand tu te sens pauvre, tu te sens dans le manque et tu as envie de prendre. Tu as envie de prendre des autres. Quand tu te sens rempli et que tu te sens dans l'abondance et que tu te sens riche, tu as envie de donner et partager. Donc, si tu arrives à être dans la gratitude, et qu'en même temps, tu as quelque chose qui t'inspire, naturellement, tu as envie de le donner et le contribuer, et d'y contribuer. Maintenant, ce qui est super intéressant, parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui ont un dilemme avec la gratitude, ils ont peur d'avoir de la gratitude, parce qu'ils ont peur qu'en ayant de la gratitude, ils perdent leur fuel et leur capacité qu'ils ont à avancer. Et au moins 60% des entrepreneurs que je vais accompagner, dans les premiers temps, en développant la gratitude, ils vont perdre de l'énergie pour avancer. Mais dans un deuxième temps, il va se passer un truc qui est fascinant et moi, ça m'inspire, c'est qu'en fait, ils vont perdre la motivation pour les choses qui ne les inspirent pas réellement et ils vont avoir plus d'inspiration pour les choses qui les inspirent réellement. Donc, au début, c'est un vrai changement parce qu'ils se rendent compte « j'ai plus envie de faire ça » parce qu'il y a plein de choses qu'ils faisaient avant dans leur vie parce qu'ils le faisaient pour se prouver quelque chose ou pour prouver quelque chose. Mais maintenant, vu que ma vie elle est déjà parfaite, j'ai pas besoin de faire tout ça, pas besoin d'avoir autant d'argent, pas besoin d'être reconnu, pas besoin d'avoir ce diplôme, pas besoin d'avoir cette reconnaissance pour me sentir bien, parce que je me sens déjà bien. Donc, tous les faux rêves, tu les perds. Tu dis, je suis déjà bien. Mais du coup, ça laisse de la place à une forme d'énergie à l'intérieur qui te dit, ça, t'adores ça, contribue de cette manière. C'est-à-dire que ça m'est jamais arrivé d'être dans la gratitude et d'avoir envie d'arrêter de faire des vidéos. Là où je fais souvent des vidéos, c'est justement dans les moments où je suis le plus rempli. Parce que je me sens bien, je suis là, waouh, j'adore ma vie. Et souvent, le premier réflexe que j'ai, c'est que j'ai envie de prendre mon téléphone, faire un Facebook Live, partager cette énergie. C'est rare que je dise, non, je la garde pour moi. Donc, pour faire la différence, c'est que si cette gratitude bascule dans une forme de « c'est déjà bien », c'est certainement, entre guillemets, une mauvaise gratitude. J'aime pas ce terme-là, mais c'est juste pour faciliter. Si c'est une gratitude du type « je suis déjà riche, je suis déjà rempli, ma vie elle est déjà extraordinaire et j'ai envie d'aller explorer la vie, j'ai envie d'avancer », là, tu as certainement plus une gratitude qui vient de l'intérieur. C'est ce que... Et c'est une vraie confusion, par exemple, par rapport justement au fait de se contenter de choses simples, d'apprécier le moment présent. Et c'est pas parce que tu apprécies le moment présent que tu te contentes de choses simples que tu n'as pas envie de découvrir d'autres choses, d'explorer d'autres choses. Par contre, tu vas arrêter d'avoir envie de découvrir et explorer les choses que tu voulais explorer parce que tu te subordonnais à une autorité supérieure et que c'était eux qui avaient envie. Mais les choses qui t'inspirent, personne sur cette terre peut nous arrêter d'avoir envie de les faire, et surtout pas la gratitude. Les meilleures conférences, je les fais quand je suis dans la gratitude, parce que c'est là où j'ai le plus envie de donner. Quand je suis le moins bien, le plus triste, je n'ai pas envie de partager. Donc, pour faire la différence, c'est que dans la gratitude, tu es inspiré, tu es créatif. Donc la vraie gratitude, tu es inspiré, tu es créatif et tu as envie de contribuer, tu as envie de donner. Tu as envie de partager, tu as envie de peindre, tu as envie de communiquer avec des personnes, tu as envie de faire ce voyage, tu as envie de rencontrer des cultures, tu as envie de faire du piano, tu as envie de faire quelque chose pour les autres. Et donc je ne crois pas en tout cas que la gratitude puisse nous empêcher de vivre une vie qui nous inspire, au contraire. Par contre, ce qui est douloureux, c'est ce truc de « vu que je suis bien, j'arrête de vouloir faire plein de choses que je me forçais à faire. » Parce que d'un coup, tu te dis mais pourquoi tout ça alors que je suis déjà bien ? Par contre, ça laisse de la place sur « je peux faire ça. » Là, je crois il y a 2 semaines, j'ai eu un entrepreneur, il a fait un séminaire, il me dit « je suis un peu chamboulé ». Parce que je l'ai aidé à se rendre compte de ce qui était de l'ordre des vrais rêves et ce qui était autour du fantasme. Et du coup, ça a éliminé beaucoup de choses. Et du coup, il me dit, je me sens un peu vide là depuis une semaine. C'était inconfortable. Et quand il m'a dit, je me sens un peu vide, pour moi, c'était une bonne nouvelle. Parce que c'est ce vide-là qui va permettre d'avoir l'inspiration et de faire émerger des désirs et des rêves qui sont vraiment des choses qui t'inspirent. Et de toute façon, c'est simple. Tu ne peux pas tenir dans un projet sur 20, 30 ans si tu n'es pas inspiré. Si ça ne t'inspire pas, tu ne fais pas ça. Martin Luther King, il y avait une force à l'intérieur qui le poussait à faire ça. Et ça l'a poussé jusqu'à sa mort. Donc voilà pour ma réponse. C'est bon ? C'est bon ? Faut qu'on jette le micro.
Vas-y. Ici David. David, tout d'abord, merci à toi. Tu ne le sais pas, mais tu partages mes matinées depuis 8 mois. Au moins une vidéo par matin.
Je ne veux pas savoir. Juste une parenthèse, une fois, j'ai une dame qui me dit, heureusement, elle me dit, mon mari regarde votre vidéo tous les matins dans le lit, ça m'inquiète. Elle me disait ça en rigolant. Excuse-moi.
Pas de problème. Je saoule mon entourage avec tes vidéos. Et ma question, c'est plutôt autour du conflit. Moi, j'ai un boulot où j'ai beaucoup de relations conflictuelles.
C'est quoi ton boulot ?
Je suis directeur sécurité, notamment.
D'accord.
Donc forcément, j'impose des règles, des standards qu'il faut surpasser parfois.
Directeur de sécurité pour une entreprise, c'est ça ?
Oui, dans les énergies renouvelables.
D'accord.
Et du coup, je travaille beaucoup sur moi, méditation et sport de combat. Ça fait du bien aussi.
Tu fais les deux en même temps ?
Non. Mais l'un prépare l'autre. Et c'est quoi ton secret à toi pour gérer les conflits ?
Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal avec la notion de conflit parce que j'essayais de tout faire pour éradiquer le conflit, la guerre, etc. C'est d'où ma passion au début pour Mandela, Gandhi, Martin Luther King. Et alors, je ne vais pas aller trop loin parce que ce n'est pas le propos de... Parce que c'est une thématique qui est sensible pour plein de personnes. Et en fait, je me suis rendu compte que je fuyais le conflit plus de comprendre le sens qu'il y a derrière le conflit. Le conflit, c'est une vraie opportunité. Le conflit, ça permet d'exprimer les choses qui ne sont pas exprimées en temps normal. Le conflit, ça permet de faire grandir la relation. Le conflit, ça permet d'évoluer et grandir. Donc, ce qui fait aujourd'hui, déjà dans mon rôle d'entrepreneur, je vais avoir des équipes, je vais avoir besoin des fois de prendre le rôle du méchant, de faire des feedbacks qui ne sont pas agréables à entendre. La manière dont j'aborde aujourd'hui ce conflit, c'est de me rendre compte, c'est quoi les bénéfices pour la personne et pour moi, et pour le global, à avoir cette situation de conflit. Et le fait d'avoir en tête pourquoi je le fais, me permet, d'être beaucoup plus à l'aise. C'est un petit peu comme si tu avais un enfant, il a deux doigts de se faire écraser, et tu le tires par le bras, ça va lui faire mal. Et il peut t'en vouloir sur le coup. Mais si tu sais pourquoi tu le fais, même si ce n'est pas agréable pour lui, dès lors que ça a un sens, tu le vis mieux. C'est comme, j'adore voir cette scène-là, où tu as le petit garçon ou la petite fille qui va voir son papa ou sa maman et qui dit « Maman, je peux avoir une troisième glace ?» J'adore cette scène. J'adore cette scène parce que les enfants, c'est des machines de manipulation. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ils savent exactement quelle mimique faire, quelle tête faire, quelle intonation prendre, à qui demander en premier, quelle question dire après, juste derrière. « Merci papa !» Il n'a pas répondu. « Merci papa, je t'aime papa !» Bref, ils sont trop forts. Et j'aime aussi voir le non-verbal du père ou de la mère. Quand le père ou la mère assume et dire « Mon chéri, mon bout de chou, peu importe, non, tu n'auras pas une troisième glace. » Et j'adore entendre le fils ou la petite fille dire « Je t'aime pas, papa. Je t'aime pas, maman. » Et pourquoi j'aime ça? Ce que je regarde, ce n'est pas l'enfant. Ce que je regarde, c'est le non-verbal du parent. Et je suis sensible à un seul critère. C'est sa certitude. Et tu mesures la certitude à l'état d'ancrage, tu fais des arts martiaux, à l'état d'ancrage que va avoir la personne, le parent dans le contexte en question, quand il est en train de lui dire « Non, tu n'auras pas ça. » Et j'aime voir si derrière, le parent, il va déglutir ou pas, et s'il est mal à l'aise avec l'enfant qui est en train de lui dire qu'il crée un jeu psychologique, l'enfant. Hein. Il est en train de rentrer dans « Je t'aime pas, je t'aime pas maman, etc. Tu me fais souffrir. » Et j'aime voir quand le parent arrive à rester aligné, et même, je sens un léger sourire et à conscience du jeu qu'est en train de jouer l'enfant et juste se dit, je sais pourquoi je le fais. Et là, il peut y avoir un conflit entre l'enfant et le parent, mais vu que le parent sait la vision, pourquoi il est en train de le faire, peu importe le conflit qui apparaît, lui, il est stable. Et c'est la même chose. Dans le cas de toi, tu as des normes de sécurité à respecter. Les gens à qui tu proposes ces normes-là, n'ont pas ta vision et ne voient pas toutes les conséquences si on ne respecte pas ces normes. Donc, il y a deux choses. La première, c'est un travail d'éducation. Il y a plein de gens qui comprennent mieux les règles du jeu qu'on leur explique le sens qu'il y a. Ça, c'est externe, stratégie externe, éducation, pédagogie. Tu peux raconter des histoires de gens qui n'ont pas respecté les normes de sécurité, des gens qui les ont respectées, ce que ça implique, pour que les gens mettent en perspective le pourquoi de la règle. Et l'autre chose, c'est plus ta question, c'est en interne, de savoir pourquoi je fais ça. C'est quoi le sens derrière ça? Et plus tu sais où tu veux amener la sécurité de l'entreprise, plus tu as la vision en tête et plus tu sais que c'est important pour toi et plus tu vois des bénéfices pour la personne à vivre cette tension et ce conflit, plus tu seras à l'aise. C'est-à-dire que plus je peux voir que les personnes qui m'ont challengé m'ont fait grandir, plus je suis à l'aise à challenger les autres. Et donc ma dernière réponse, c'est que si toi tu vois dans ta propre vie toutes les personnes qui t'ont challengé et qui ont créé du conflit avec toi, comment elles t'ont apporté et comment elles t'ont servi et fait grandir, tu seras plus à l'aise pour le faire vivre aux autres. Encore une fois, c'est une question de où est-ce que je vais. Plaisir.
Dernière question.
Alors, tu conseilles à tous les adolescents de 15 ans de suivre leurs rêves et tu dis que personne ne peut les arrêter. Mais est-ce que tu...
En tout cas, ce n'est pas ce que je souhaite dire. Ce que je souhaite dire, c'est que je souhaite que les adolescents, et peu importe qui dans ce monde, aillent vivre la vie qui les inspire. Je n'ai pas dit que rien ne peut les arrêter. Oui. Je souhaite que peu importe les circonstances et extérieures, ils trouvent les ressources pour que ça ne les arrête pas. Voilà, juste pour préciser.
Je suis désolée, j'ai fait un jugement en posant ma question. Donc, tu espères pour eux qu'ils réussiront à poursuivre leurs rêves et que rien ne pourra les... Enfin, tu souhaites que rien ne les arrête. Mais est-ce que tu ne penses pas que la société nous pousse quand même à être dans des cases, comme dit Pierre Rabhi d'ailleurs? Tu ne penses pas que la société nous pousse à être dans des cases et que nos rêves n'ont pas forcément une place, justement, que la société ne souhaite pas que nos rêves aient une place dans l'environnement où on est?
J'aime beaucoup ta question. Alors, je vais avoir deux angles de réponse. Déjà, oui, je pense qu'il y a une partie de la société qui amène les personnes à rentrer dans des cases. Et qui, effectivement... sur un plan, empêche des personnes à vivre la vie qui les inspire. Je pense effectivement, tu as raison, qu'il y a des personnes dans ce monde qui voient plus de bénéfices pour eux et que plein de personnes ne réalisent pas leurs rêves. Maintenant, et ça va être ma deuxième partie de la réponse, et qui est pour moi le plus important, dans toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des personnes qui ont eu des contraintes, qui ont eu des règles, qui ont eu des cases, qui ont eu des difficultés. Et dans toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des personnes qui ont su traverser et dépasser les règles. Et je vois des bénéfices aux règles du jeu. Tu sais, quand tu interviews quelqu'un qui fait de la musculation, c'est rare qu'il te dise, d'une semaine à l'autre, le poids que je suis en train de lever, ah, il est plus lourd que la semaine dernière. Au contraire, il est content quand la difficulté augmente. Il y a deux manières d'appréhender, quand tu es jeune, le système dans lequel tu grandis et tu vis. Il y a la première manière qui est en mode « je subis ». Quand j'interviens dans les lycées, ils sont beaucoup. C'est mort, c'est fini. Quand je leur dis « mais tu sors d'où cette connerie ?»« Ben, mes parents m'ont dit que c'était mort. Voilà. » Et donc, il y a le premier mode qui est le mode victime. Et oui, c'est en partie vrai qu'il y a un phénomène de case. Oui, c'est en partie vrai qu'il y a des limites. Mais ça, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, la limite, c'est pour les personnes qui veulent réorganiser le système. Mais à l'échelle du jeune, pour l'instant, sa question, ce n'est pas à réorganiser le système éducatif. Sa question, c'est comment tu vas vivre la vie qui t'inspire, peu importe le système. Parce que même si le système change, c'est un mammouth le système, il aura 70 ans quand le système il aura peut-être changé. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas débattre sur le système, c'est qu'est-ce que tu peux faire avec ce système-là maintenant pour trouver des solutions et vivre la vie qui t'inspire. Et j'aime aider une personne à renverser sa vision et se dire, justement, parce que le système me met dans des cases, parce que ça me limite, je vais créer le fuel, le muscle à l'intérieur de moi, de justement en avoir rien à faire des cases. Quand en 2012, j'ai créé mon entreprise, plein de gens autour de moi, de 20, 30, 50, 60, 70 ans et 80 ans m'ont dit, juste, on est en pleine période de crise, ne crée pas ton entreprise. Et au début, ce n'était pas évident à gérer, à vivre. Jusqu'au jour où j'ai quelqu'un qui m'a aidé et qui m'a posé une question. Et si le fait que ça soit la crise, ce n'était pas une opportunité, parce que si tu arrives à grandir, à avancer, à te dépasser, à construire, à créer, à te relever dans cette crise, qui peut t'arrêter derrière? Donc moi, ce que je dirais à une jeune ou à un jeune, qui, oui, il y a le système éducatif qui exerce une certaine pression, c'est justement, c'est une bonne nouvelle. Développe cette force à l'intérieur. Développe cette capacité à observer, parce qu'il existe des voies, il existe des stratégies, il existe des opportunités. Et ce que je dis souvent aux jeunes de 12, 13, 14, 15, 16 ans, c'est maintenant. C'est-à-dire que si à 15 ans, je suis prêt à parier là-dessus, si à 15 ans, un jeune, il fait la liste des 100 personnes qui l'inspirent le plus dans le monde et qu'il les contacte et qu'il fait une belle lettre et qu'il cherche à les rencontrer et qu'il cherche à apporter de la valeur, justement parce qu'il a 15 ans, il aura plus de chances qu'on lui dise oui. Et donc, sur un sens, le système est sclérosé et grâce à plein de personnes qui sont actives, tu parlais de Pierre Rabhi, qui est acteur de ce changement-là, ça prend du temps. Maintenant, quand j'interviens dans un lycée de cité, je peux lui parler de Pierre Rabhi, mais lui, il n'est pas concerné. Lui, il est concerné par le fait que, par exemple, je suis allé dans un lycée, tous les profs m'ont dit, vous verrez, bon, c'est un peu des losers. Donc, moi, mon rôle, ce n'est pas leur dire, le système éducatif, il a un problème, ça va juste renforcer le fait que c'est mort. Moi, ce que je veux qu'ils créent comme énergie à la fin de la journée, c'est justement le système éducatif est sur mesure pour moi et je vais aller vivre la vie qui m'inspire. Il y a 6 mois, j'organise une conférence et je vois un jeune comme ça et je lui dis, mais ton visage me dit quelque chose, on s'est vu quand? Et je fais tellement de conférences, j'ai du mal à me rappeler des visages. Il me dit, oui, on s'est vu. Tu as intervenu dans mon collège il y a, je ne sais plus, 3, 4, 5 ans. Tu as fait une conférence. Et la seule chose que j'ai retenue de cette conférence, c'est que les choses étaient possibles, peu importe le système dans lequel il est. Donc oui, le système est sclérosé, mais surtout, je dirais, peu importe le système. Il y a des gens au travers l'histoire qui nous montrent que c'est possible. Il y a des femmes à qui on a dit « c'est pas possible de réussir » et qui ont réussi. Il y a des personnes qui sont nains à qui on a dit « c'est pas possible » et qui ont réussi. Des personnes avec un handicap qui ont réussi des choses incroyables et transformé le monde. Il y a des jeunes qui ont réussi. Il y a des personnes de 80 ans qui ont réussi. Dans tous les domaines. Et ma mère, au début, elle ne comprenait pas. J'ai recouvert ma chambre quand j'étais chez ma mère de citations inspirantes. J'ai lu, je ne sais pas, 200, 300 biographies de gens qui ont transformé le monde jusqu'à me persuader que peu importe ce qu'on me raconterait, je transformerai ma vie. Et c'est ça. D'ailleurs, j'en profite, les citations, c'est un bon plan, hein, ça marche bien. Pour les hommes, vous les mettez des deux côtés des toilettes. Comme ça, vous êtes sûr d'être tout le temps exposé à une citation qui vous inspire. Ma mère ne comprenait pas, je mettais des citations partout dans la maison. Je m'étais même trouvé une application, je ne sais pas si ça servait à grand-chose, qui mettait des citations sur l'écran, là, comment on appelle ça? Ça clignotait comme ça, c'était des images subliminales de citations inspirantes. Je ne pense pas que ça servait à grand-chose, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai tout fait pour me conditionner à croire que peu importe le système actuel, il y a des opportunités. Donc, c'est important pour moi, parce que sinon on bascule vite dans un schéma de « c'est horrible, c'est dur, on ne peut rien faire ». Et c'est surtout pas ce que j'ai envie que les jeunes se disent le matin. J'ai envie qu'ils se disent qu'ils ont des parents sur mesure, un système actuel qui est sur mesure. Après, ils peuvent agir pour le changer s'ils veulent. Voilà, c'est ma vision en tout cas.
J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle « Les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. » En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant. Et pour la trouver, tape dans Google « David Laroche, les 5 erreurs, cadeau. » « David Laroche, les 5 erreurs, cadeau. » Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.